statuette de la déesse Apsara incarne le bonheur et la danse traditionnelle khmer. 4500 gestes ont été répertoriés pour sa pratique. Le krama, pièce de coton à carreaux, incarne l'objet du quotidien présent dans chaque famille cambodgienne.
C'est la tradition, tout le monde, il faut utiliser le krama, comme ça sert à plein de choses. Protéger la tête quand il fait chaud, transporter le bébé. On servait l'assiette avec les feuilles de banane, on met du riz dedans et après on enveloppe dans le krama. Et pour porter, manger le midi. Ça c'est avant la guerre, hein, parce que pendant la guerre, il n'y a pas de ça.
Le bol de riz incarne l'unique manière de rester en vie.
Et pendant le régime communiste, on n'a rien à manger. On donne, vous voyez, c'est 250 grammes. Et c'est pour 30 personnes, donc c'est que de l'eau, du riz. Et ça donne de la vie.
Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est mourir de faim, on est capable de manger n'importe quoi, même un être humain. C'est ça quand on est mourir de faim.
Avril 1975, les Khmers rouges envahissent le Cambodge et instaurent une dictature pour laquelle je n'ai trouvé ni qualificatif ni métaphore à la hauteur de sa barbarie. Pol Pot et ses troupes imposent l'évacuation immédiate des villes et de la capitale Phnom Penh. Ils organisent la déportation des habitants dans les campagnes. En quelques semaines, le pays se transforme en un gigantesque camp de torture et de travail forcé. Les familles sont séparées et les enfants parqués par tranches d'âge. Le groupe des 3 ans, le groupe des 10 ans, le groupe des 15 ans et ainsi de suite. Tous doivent travailler, même les 3 ans. Le régime ordonne la torture et l'exécution quasi systématique de toutes les élites intellectuelles du pays, les militaires, les fonctionnaires, les enseignants, les médecins. Tous ceux qui parlent une langue étrangère ou qui portent un prénom français font partie du lot. Début 1979, le Vietnam envahit le Cambodge, ce qui provoquera à terme la chute du régime. Pendant des mois, les populations se retrouvent prises en étau entre les Vietnamiens et les Khmers rouges et tentent de continuer à survivre en échappant aux uns et aux autres. Novembre 1979, un camp de réfugiés est mis en place par l'ONU en Thaïlande, à la frontière cambodgienne. Leur père, qui avait fait l'école du génie à Angers, était colonel dans l'armée cambodgienne. Leur mère parlait une langue étrangère, la mienne. Toutes les deux portent des prénoms français. Odette et Evelyne sont assises en face de moi.
Nous, on était parce que le jour qui gagne la victoire de Pol Pot, c'est-à-dire le 17 avril 1975, ils nous chassent de notre ville, c'est Phnom Penh, pour tout le monde travailler à la rizière.
C'est le Pol Pot qui a amené mon papa. Pendant, on est en train de manger à table en famille, on est 5. J'ai mes 2 frères, Odette et moi, et ma maman. Et il y a les militaires. Ils sont venus voir, je veux amener votre papa. Et ma papa est en train de manger, tout ça. Il laisse même pas papa finir de manger. Et il amène, et puis depuis qu'on ne s'est pas vu. Parce que mon père était colonel du génie. Donc, quand c'est la guerre, il ne faut pas garder les hôtes militaires. Donc, pour moi, je dis, il va fusiller. Torturer d'abord avant fusiller. Comme tous les militaires. Il tue tous les militaires en premier, après tous les intellectuels, c'est-à-dire tous les professeurs, les médecins, tout ce qui est hautes études, qui savent lire et écrire. Il voulait tout et tout ça et garder que les illettrés.
Euh, C'est-à-dire que pendant le régime communiste, là, on distribuait par groupe. Groupe de 3 ans, groupe de 10 ans, 15 ans, 18 ans. Les petits de 3 ans, ils ramassent des bétails, ils ramassent de tous les saletés de caca de vache, caca de cheval, tout ça. Ça, c'est les enfants de 3 ans. Et comme moi, j'étais à l'époque, j'étais 15 ans. J'ai travaillé dans le groupe de 15 ans. Je ne vois plus maman, je ne vois plus Evelyne.
Moi, je suis dans le groupe de 10 ans. Et je dors en groupe, c'est-à-dire que je ne vois pas maman. Je ne vois pas toute la famille parce que les familles sont séparées. Chacun, maman à part, papa à part. Papa il est parti amené pour fusiller. Et tandis que j'ai mes deux frères qui sont séparés aussi, qui sont mis dans les groupes de les garçons, parce que les garçons n'ont pas le droit de rester avec les filles. Donc c'est tout en groupe de par 30 ou par 20, par 10 comme ça. Et dès le matin, on se réveille pour aller travailler et on rentre que le soir. On mange vraiment que de l'eau de riz. On n'a droit que l'eau de riz et dans la nuit, on vit avec la lune. Et on ne connaît pas qu'est-ce que c'est la lumière parce qu'il n'y a pas droit aux bougies, il n'y a pas droit aux lumières. C'est on vit dans le noir. Donc on vit le soir quand on rentre, il faut rester déjà à la réunion. Ce qui fait des bêtises, il faut amener faire tuer le soi-même. Je sais que mon frère était enterré vivant. Parce que moi, j'étais restée dans les 10 ans. Je voudrais rejoindre voir mon frère, qui a combien? 2 ans de plus que moi.
Un an de moins que moi.
Je suis allée le voir, j'ai réussi à le voir. Parce que c'est pour le voir, il me manque énormément. Et dès que je le vois, il m'a ouvert, il est content, il était très très content de me voir parce qu'on ne s'est pas vu depuis la guerre qui nous chasse, depuis 1975. C'est grâce au bombardement des Vietnamiens que j'ai pu aller le voir parce que ça me manque énormément, j'ai manqué des frères. Et quand je le vois, il m'a dit, tu peux aller... J'ai caché du riz, tout ça, en dessous les matelas. Et tu vas manger. Et un jour, je suis allée pour... J'ai tellement faim. Je suis allée, j'ouvre le drap. Et j'ai vu à manger, j'ai mangé tout ça. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui est passé. Il a vu que j'étais en train de manger. Il a dit, ah, ça c'est la sœur la sœur de mon frère, Bernadette. Et il s'enfuit comme ça. Et moi aussi, je suis s'enfuir aussi. J'ai peur qu'il m'attrape pour tuer aussi. Parce que c'est une faute très grave. Hein, parce que personne a réussi à manger. Le lendemain, je ne vois plus mon frère. C'est après quelqu'un qui vient de venir me dire, ton frère est enterré vivant. Je sais que c'est ma faute. J'ai toujours gardé dans mon cœur.
Parce que mon papa était militaire et quand j'étais dans le Battambang, aux provinces, il y a quelqu'un qui me connaît, il m'a accusé que je suis commando. On m'a emmené tout de suite 3 jours pour enchaîner.
Attaché à la chaîne.
Attaché à la chaîne.
Prisonnier de guerre, par accusation. Parce que nous, on est. Moi aussi, je suis fait partie aussi. Accusation de. Parce que je suis la fille du colonel. Et quand je suis la fille du colonel, il voulait me tuer aussi. Mais moi, par le réflexe, je dis que non, mon père, c'est un taxi, qui conduit les taxis. Il n'est pas dans le militaire. Il faut savoir mentir pour survivre.
Après 3 jours de fer, Evelyne est emmenée au trou, le surnom de la fosse commune. Elle sait qu'elle va mourir. Dans la file d'attente, elle est la deuxième. Et elle a été marquée au couteau. Le chef Khmer Rouge du camp la reconnaît. C'est un ancien élève de sa maman, enseignante. Il la sauve.
Quand il y a les bombardements vietnamiens qui rentrent au Cambodge pour chasser les Pol Pot, c'est l'occasion qu'on puisse échapper. J'ai marché 50 km à pied pour revenir rejoindre ma maman. Et c'est là qu'on essaye d'échapper pendant les bombardements pour arriver aux frontières de Thaïlande. Odette est déjà partie. Et moi et ma maman, on a réfléchi. Je dis, tant pis, on va mourir la dernière fois encore. On va échapper, on va courir. On va marcher, sortir du Cambodge pour arriver aux frontières thaïlandaises. Et après, maman, elle a dit, bon, d'accord. Bon, 8h, on était partis, sortir avec maman. On n'est que toutes les deux, on ne connaît pas la route, rien du tout. À 20h, on est partis, juste en pantalon, avec une chemise, sans rien du tout, sans à manger, mais... Le but du jeu, c'est de quitter le Cambodge dès qu'on peut, pendant les bombardements vietnamiens qui rentrent. Et quand on arrive à peine frontière, il y a des groupes, des soldats vietnamiens qui a crié « Dida, vous allez où pendant la nuit ?» On retourne, on fait demi-tour pour rentrer. On attend encore la deuxième nuit qui tombe. Après, on dit, bon, on va essayer encore une fois. On va essayer, on a pu s'échapper. Il n'y a pas des troupes des Vietnamiens qui sont là pour dire vous allez où. On essaye de continuer de marcher tout droit. On marche que la nuit, mais le jour, on monte sur un arbre pour se reposer, pour cacher, pour ne pas les Vietnamiens qui nous voient et pour ne pas les Pol Pot qui nous voient. Il y en a deux parties. Et quand c'est la nuit, on descend encore, on marche. J'ai marché 3 nuits pour arriver aux frontières. Et le jour, je dors sur les arbres.
On sait que la Thaïlande, ça se trouve à l'ouest. Vous voyez, on franchit directement à l'ouest. Et après, c'est le Pol Pot qui a planté des mines dans la rizière. Donc, on ne savait pas, ça a explosé. Donc, pour assurer que ne pas exploser, nous, on marche sur le cadavre. Et après, on est arrivé dans le camp de l'ONU.
Bon, on a une clôture, on n'a pas le droit de sortir. C'est tout est surveillé. Ils nous donnent à manger. Ils nous donnent du riz, ils nous donnent des poissons. Au moins, on connaît qu'est-ce que c'est les poissons. Pendant le régime communiste, on connaît que l'eau de riz et du sel.
C'est un homme de 50 ans. En 1980, sa fonction l'amène à visiter le camp de l'ONU, ouvert en Thaïlande, près de la frontière, pour accueillir les réfugiés cambodgiens. Il est en visite officielle. Une dame, réfugiée, lui sert d'interprète. Elle était institutrice. Elle parle le français. Elle lui raconte son histoire. Et cet homme, ce monsieur, devrais-je dire, va alors avoir un geste inouï. Il décide d'embarquer avec lui, cette mère et ses deux filles, dans l'avion officiel du retour, sans papier, sans aucune garantie de leur identité. C'était le 30 juillet 1980. Il s'est écoulé plus de 4 décennies et les deux adolescentes viennent de me livrer leur histoire. Je me sens toute petite. Devant elle, devant la grandeur de cet élan d'humanité qui vous a traversé ce jour-là, monsieur. Vous étiez le ministre des Affaires étrangères de la France, monsieur Jean-François Poncet. Et sans vous, ce podcast n'existerait pas. Evelyne. Vous êtes mes courageuses. Dans courage, il y a le cœur, il y a la rage. Vous avez les deux. Merci de m'avoir ouvert votre porte et votre douleur. Merci pour vos sœurs du monde entier, toutes celles qui sont revenues de l'enfer, toutes celles qui n'en sont pas revenues. Merci de m'avoir préparé avec amour des rouleaux de printemps croquants. Merci de préférer mourir à Saint-Malo, là où je suis née.
Ben, pour nous, c'est-à-dire après la guerre, le Cambodge, c'est Thaïlande. Après Thaïlande, c'est en France. En France, c'est Saint-Malo. On préfère mourir à Saint-Malo. Au Pont du Groin, c'est l'endroit qu'on aime bien, qu'on aimait bien. Il y a l'espace entre le ciel, la mer et des falaises. C'est ça, ça m'attire, le calme dans le cœur.
Tout au bout, il y a la lumière. Celle de la pointe du Groin où vous avez dansé un ballet traditionnel apsara. Vous étiez trois ce jour-là, les trois seules survivantes d'une famille de 60 personnes. Je dis trois, parce qu'Evelyne portait pour la première fois la robe de votre maman. Elle dansait avec vous. Tout au bout, il y a la lumière, le Mont-Saint-Michel en toile de fond, et l'archange de sa flèche qui terrasse le dragon.
Dans les yeux de ma mère.